Bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Bienvenue dans Enfanter et devenir, le podcast dédié à l'accompagnement respectueux des enfants, mais aussi à l'empouvoirment via la parentalité. Après deux saisons axées sur des récits de naissance uniquement, il va y avoir du nouveau. Ça va être un joyeux bazar ici. Alors préparez-vous à être inspiré, informé et motivé dans votre parcours de parent, mais pas que. Ici, nous explorons ensemble les différentes facettes de ces merveilleux voyages qu'est la parentalité, en mettant l'accent sur l'accompagnement respectueux des parents et des enfants, mais aussi sur l'écologie, parce que bon, on n'en parle jamais trop. Je suis ravie de vous retrouver seule ou avec des invités pour partager des réflexions, des expériences inspirantes, des astuces qui vous aideront à vivre pleinement votre rôle dans ce nouveau paradigme pour un monde qui a grandement besoin qu'on évolue dans nos pratiques vers plus de douceur, de lenteur et de respect. Je m'adresse ici aux parents et aux pros de la petite enfance, mais de manière plus globale à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'enfance, aux relations harmonieuses et à l'épanouissement individuel et collectif. Oui, c'est un vaste et ambitieux programme. Avant tout, je me présente, je suis Laetitia Boivin, créatrice de Maman d'Alune, formatrice passionnée en périnatalité et surtout, maman de quatre merveilleux enfants, de 15, 12, 5 et 2 ans. Parmi eux, trois sont nés à la maison, librement. Ça a clairement impacté ma vision du monde et influé sur la maman et la pro que je suis aujourd'hui. Il y a 15 ans, je faisais partie de ces rares mamans écolo bizarres, avec leur lubie de maternage. Mes enfants ont tous été allaités et portés des années. D'ailleurs, c'est encore en cours pour ma plus jeune. Avec chacun d'entre eux, j'ai vécu l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, du tout lavable. J'ai signé pour enrichir notre communication. Nous avons voyagé à travers plusieurs continents. Et depuis toujours, ils grandissent sans école. Des choix que je chéris chaque jour. En bref, j'ai la chance de voir ma vie pro et ma vie perso se nourrir mutuellement. Ici, pas de jugement et pas de culpabilisation. On chemine ensemble. Vous êtes invité à prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait du bien, et à laisser le reste. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais vraiment de vous soutenir. Alors préparez-vous à vivre une aventure joyeuse, intense et pleine de découvertes dans le monde de l'accompagnement respectueux et de la parentalité. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un épisode au sujet des apprentissages. Je l'ai intitulé « Apprendre ensemble et cultiver les passions ». Alors, tout d'abord, quand je le dis dans la présentation, je suis une maman d'enfants qui ne sont pas scolarisés et ce par choix. Donc à la base, je suis pleinement convaincue, si l'on peut dire, des apprentissages informels. Alors informels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dirigés par les adultes principalement, en tout cas par les personnes autres que la personne qui est apprenante. Donc en gros, je suis convaincue que nous apprenons à notre insu. Comme dirait Monsieur Stern, ce n'est pas une chose qu'on fait, c'est une chose qui nous arrive d'apprendre. En gros, pour vous situer un petit peu le contexte, j'ai un parcours scolaire tout à fait classique, j'étais une plutôt bonne élève, avec assez peu d'intérêt pour ce que je pouvais voir en cours, et donc j'ai plus ou moins fait du bachotage toute ma scolarité. C'était pas forcément merveilleux comme souvenir, mais en tout cas, j'ai réussi à avoir mon bac avec mention sans trop de difficultés. Sans trop d'intérêt non plus, donc c'est vrai que j'avais assez peu de sens dans mes apprentissages à ce moment-là, et donc j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Je me souviens que une fois jeune adulte, quand j'ai commencé à prendre un petit peu de recul avec mon parcours scolaire, en me retournant en arrière, j'avais surtout l'impression d'avoir perdu du temps. Perdu du temps parce que tout le temps qui était passé à l'école, c'était du temps qui, moi, m'a semblé m'être volée aux choses qui comptaient vraiment pour moi, les choses auxquelles je n'avais plus assez d'énergie pour me consacrer une fois que mon calendrier, mon planning scolaire, mes activités extrascolaires étaient finies, mes devoirs également, parce que j'ai des souvenirs vraiment d'heures et d'heures passées derrière mon bureau, où je pense que je n'étais pas forcément très efficace. Donc en plus, c'était parfois, ça me semblait interminable. En tout cas, voilà, c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas envie de faire vivre à mes enfants. Alors après, bien sûr, ici, je ne vais pas taper sur les parents qui font le choix de scolariser. Là n'est pas du tout la question. En tout cas, je vous fais part de mon expérience et de mon cheminement par rapport aux apprentissages. Ça va parler à certaines personnes, pas forcément à toutes. En tout cas, j'ouvre cet espace sur cette thématique-là et à vous de prendre ce qui vous semble cohérent, ce qui vous semble juste, ce qui vous fera du bien peut-être, et puis à laisser le reste. En tout cas, gardez une oreille si toutefois, peut-être, vous avez envie d'explorer un petit peu cette thématique. Donc, bien sûr, comment on apprend, ça peut tout à fait varier d'une personne à l'autre, mais il y a quand même une chose pour moi qui est un fil conducteur, c'est l'intérêt qu'on va porter à un sujet en particulier. L'intérêt qui va pouvoir se transformer en passion s'il y a suffisamment d'espace, de temps pour ça. En gros, quand on est passionné par un sujet, on va avoir naturellement une motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur pour apprendre, pour approfondir, et on va pas voir les difficultés et les efforts de la même manière, et en gros on va pouvoir être enclin à dépasser les petites contraintes qui peuvent être nuisibles aux apprentissages, c'est-à-dire faire vraiment parfois un travail qui est récurrent quand on veut apprendre quelque chose. Bien sûr, on peut imaginer ça avec tous les apprentissages psychomoteurs. L'enfant qui commence à marcher, si dès qu'il commence à tomber, à laisser de ses premiers pas, il abandonne en disant « finalement, c'est pas pour moi, je ferai ça une autre fois peut-être, mais je suis pas sûre ou je vais continuer à marcher à quatre pattes », on le saurait. En effet, actuellement, il n'y a pas de parents qui doutent, pas de professionnels non plus, qui doutent que l'enfant y marchera un jour, dans le cadre où il n'est pas porteur d'un handicap qui serait un frein. Toujours est-il que l'enfant qui va tomber et retomber et retomber, il va continuer à se relever et à essayer parce qu'il a la motivation de marcher sur ses deux pieds, de imiter, de rentrer dans le monde des grands, le monde formidable où il va pouvoir se retrouver avec des choses dans la main en même temps qu'il avance. Chose qui n'était pas forcément possible quand il était encore à l'étape du quatre pattes. On peut imaginer la même chose pour différents apprentissages, par exemple la natation. On ne se dit pas à un moment donné, en fait c'est trop difficile, j'y arrive pas et j'abandonne, finalement je ne veux pas apprendre à nager. Alors bien sûr, il y a des paliers dans les apprentissages. Parfois, on arrive à un moment, c'est un petit peu plus difficile. Et là, tout est l'intérêt de sa motivation et que la motivation ne soit pas extérieure, mais bien qu'il vienne de l'intérieur. Parce que à moins de se sentir vraiment pressé et de le faire dans un cadre autoritaire où on se sent forcé, et on ne le fait pas du coup avec le cœur, on le fait à contre-cœur justement. Sinon, ça vient forcément de l'intérieur, cet intérêt. Et donc, la posture des personnes qui va nous entourer quand on va se lancer dans le processus d'apprentissage, elle va être importante parce que, en gros, on va avoir deux manières d'accompagner les personnes qui apprennent. Soit on va étouffer leur curiosité en leur disant, en leur donnant un cadre très strict, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça. Et en fait, la personne ne va pas pouvoir trouver les ressources qui lui semblent pertinentes pour avancer. Soit on va juste respecter son élan naturel et ça va préserver et maintenir la curiosité naturelle. C'est pour ça que ça peut être intéressant de ne pas répondre aux enfants avec des réponses trop figées et laisser plutôt des réponses qui soient ouvertes, qui laissent paraître déjà où l'enfant en est dans ses connaissances, comment se situe sa sensibilité sur un sujet en particulier. Ça nous permet d'avoir des réponses non seulement qui ouvrent
plein de possibles par rapport aux apprentissages, mais en plus qu'il soit respectueux de l'enfant pour savoir où il est, où il se situe dans une thématique en particulier. Je parle de l'enfant, mais vous allez le voir, quand je parle de personnes qui apprennent, c'est pas forcément les enfants, parce que justement, pour moi, on est apprenant toute sa vie. Et c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, à l'heure actuelle, dans les gestes, les outils, les skills, comme on pourrait dire en anglais, qui me sont utiles au quotidien, bah, la grande majorité, ce sont des choses que j'ai apprises une fois, adulte. Et finalement, il reste bien peu de choses de cette période qui est pourtant beaucoup plus conséquente. Pas forcément, parce que là encore, c'est difficile de comptabiliser le temps d'apprentissage, surtout quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné. Toujours est-il que c'est quand même des années et des années dont, au final, il reste assez peu de choses, puisque ça ne s'est pas ancré sur de la mémoire à long terme, mais ça a été simplement appris pour être restitué à un moment T. En gros, c'est aussi des choses que je n'ai pas forcément mises en pratique parce qu'elles ne m'étaient pas forcément utiles au quotidien. Et c'est vrai que cette expérience pratique, le fait de pouvoir faire, de manipuler, de ne pas s'arrêter à de la théorie, mais d'être vraiment dans le concret, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je m'y suis beaucoup retrouvée quand j'ai découvert la philosophie Montessori. J'ai vraiment à cœur de parler de philosophie, non pas ni de méthode, ni de pédagogie, parce que pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Donc la philosophie Montessori, elle va vraiment venir pointer l'intérêt de passer par les sens, de passer par le concret, et de permettre, en gros, si l'on peut utiliser ces termes, arriver à ce qu'on appelle, à ce que Maria Montessori appelait l'auto-éducation. Donc pour elle, l'auto-éducation, c'était un objectif qui était atteignable en alentours des 12 ans environ, quand on a accompagné les enfants à révéler leur plein potentiel. Donc pour elle, en gros, elle le décrit comme un moment où ils sont capables de trouver les ressources qui leur sont utiles pour creuser un sujet qui les intéresse, où ils sont capables de croiser les données pour avoir suffisamment de recul sur des événements, sur des informations, et aussi pour assimiler des contenus qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Ça va être vrai dans plein de domaines différents. Mais en gros, on va pouvoir retrouver cette capacité, en gros, de dérouler le fil d'une passion, d'un sujet, pour se sentir suffisamment à l'aise avec et pour pouvoir le surfer dessus au quotidien. Bien sûr, il est possible d'accompagner les apprentissages de ces enfants au mieux et de manière respectueuse quand ceux-ci sont à l'école. Il y a un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle le co-schooling. Co-schooling fait référence au fait de faire ensemble l'école. Elsa Thiriot en parle magnifiquement bien dans son blog Merci Montessori, où elle vous propose de très nombreuses activités qui sont ludiques, et ce, dès le plus jeune âge, parce qu'il me semble que son bouquin sur Mango Édition est à partir de 18 mois. Évidemment, il y a plein de manières de revisiter les apprentissages autrement qu'avec les très classiques fiches, feuilles et compagnie, des méthodes un petit peu conventionnelles qu'on a pu connaître pour la majorité d'entre nous. Et bien sûr, je tiens à le préciser, il y a plein d'instituts passionnés qui sont vraiment au service du bien-être des enfants et qui vont faire en sorte de les captiver, de les intéresser, même quand le programme est très imposant et très rigide. Malgré tout, on ne va pas se leurrer, c'est quand même pas la majorité, notamment dû au fait de la condition dans laquelle toutes ces personnes passionnées pratiquent leur métier. En tout cas, le gros avantage, c'est que on peut ne pas rester focalisé sur les apprentissages qui sont faits seulement à l'école et voir tout ce qui est possible de faire à côté, en parallèle. Et donc, bien sûr, si ça vient s'ajouter à tout ce qui est déjà fait à l'école, c'est d'autant plus important qu'il y ait de la légèreté et qu'il y ait du plaisir dans ces propositions qui sont faites. Et que ce mot proposition puisse être fidèle à la réalité. C'est-à-dire que quand on propose, l'enfant est tout à fait à même de dire non. Et ça ne doit pas lui en coûter de dire non, au contraire. C'est simplement quelque chose dont il peut se saisir s'il en a l'élan et qu'il peut refuser si ce n'est pas le cas, ou peut-être différer, pourquoi pas. Parce que comprendre le monde qui nous entoure, c'est quand même quelque chose qui prend du temps, c'est vraiment tout un processus et bien sûr, on va se retrouver dans plein de situations qui peuvent être différentes et à chaque fois, on peut se rendre compte que quand on a les clés de compréhension pour un environnement donné, eh ben, ça ne va pas être forcément les clés qui vont être pour nous actionnables dans un autre environnement. C'est-à-dire que si je suis adaptée à ma culture et que je connais les codes de ma culture, eh ben, ça ne sera pas forcément les mêmes si je voyage outre-Atlantique, par exemple. Et ça peut être intéressant à ce moment-là de réussir à prendre suffisamment de recul pour dire « Ok, qu'est-ce qui est bon à apprendre ou pas ? Qu'est-ce qui est intéressant de transmettre ou pas ?» Et en gros, là, moi, je vais vous inviter à réfléchir à l'ouverture d'esprit que vous voulez transmettre à vos enfants. Donc, de toute façon, sans surprise, par imitation. C'est-à-dire que si vous fermez les sujets, ben, votre enfant risque pour lui-même de réagir de la même manière. Parfois, il est bon d'être prêt à se remettre en question, à remettre en question nos propres croyances et à explorer des nouvelles voies, parce que c'est ainsi qu'on a davantage de chances de découvrir des nouvelles connaissances, de grandir sur le plan personnel et donc professionnel, parce que pour moi, les deux sont vraiment liés. Et donc, ça nous permet de faire preuve de beaucoup d'humilité. Je pense que l'humilité, c'est quelque chose qui est essentiel pour apprendre. Et donc, comme je vous le disais, pour moi, l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire tout au long de sa vie. En gros, ça ne se limite pas aux années scolaires. On peut apprendre donc de manière formelle en choisissant des supports. Alors, les supports qu'on privilégie la majorité du temps, ça va être les livres. Maintenant, pourquoi pas les podcasts, les émissions de radio, les émissions, les documentaires. Il y a énormément aujourd'hui de sources d'informations. Mais ce qu'on va en faire, ça va vraiment dépendre de notre posture. Pour acquérir de nouvelles connaissances et nouvelles compétences, c'est important de rester actif dans cette démarche-là et ça contribue fortement à notre épanouissement personnel. On nous a répété souvent quand on était enfant qu'en gros, il y avait des personnes qui avaient des grandes capacités d'apprentissage et d'autres moins. En réalité, je pense qu'on n'a pas toujours eu l'occasion de découvrir quels étaient nos intérêts propres et de pouvoir avoir la chance de mettre à profit notre curiosité pour aller vraiment développer notre capacité de concentration et de mémorisation. Et c'est vrai que quand on a la liberté de se donner, de se jeter à cœur joie dans des intérêts un petit peu plus poussé, un petit peu plus personnel, ça peut évoluer. On peut à ce moment-là toucher toute l'ampleur que représente la passion pour une thématique donnée et combien ça va nous permettre de soulever des montagnes. Je trouve que c'est particulièrement important de dissocier les formations des connaissances. Alors bien sûr, il y a plein de professionnels aujourd'hui dans plein de domaines différents qui sont formés et compétents, qui sont formés et qui ont tout un tas de connaissances, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas formées et qui sont très compétentes parce qu'elles vont être pointues dans leur domaine d'expertise, parce qu'elles vont avoir eu tellement de passion qu'elles vont savoir mettre à profit les heures et les heures passées à se renseigner, à lire, à échanger sur le sujet. Et moi, je rencontre régulièrement des personnes qui n'ont pas de titre professionnel, qui n'ont pas les diplômes, mais qui par contre ont de grandes compétences dans des domaines particuliers. Et c'est vrai que moi, à l'heure actuelle, c'est ce qui me semble le plus important quand je dois faire confiance à une personne en particulier pour un service. C'est vraiment son niveau de compétence, son implication, son engagement au-delà du bout de papier qu'elle aura pu recevoir qui va venir un petit peu offrir de la légitimité. La légitimité, c'est vrai que c'est quand même une vaste question. Je pense qu'on pourra en reparler à une autre occasion de manière un petit peu plus spécifique. En tout cas, voilà, je voulais mettre en avant que l'auto-formation, cette fameuse auto-éducation finalement, elle est tout aussi valable et sincèrement, je vous invite si vous sentez que vous ne la valorisez pas, à y réfléchir parce que je trouve ça vraiment important dans le monde aujourd'hui, qui est un monde qui est en pleine évolution, où on ne sait pas quels seront les métiers de demain, quelles sont les activités que feront nos enfants d'ici quelques années, quelques dizaines d'années. Et en fait, ça me semble essentiel de garder à l'esprit que il n'y a pas forcément d'un côté les bonnes connaissances, les bonnes compétences et de l'autre côté celles qui n'ont pas d'intérêt. Non, vraiment, c'est important de reconnaître tout type de connaissances et de ne pas voir seulement par le prisme de la formation et du diplôme. Et puis, on peut aussi voir que finalement, en prenant un petit peu de recul, tout ce qu'on vit au quotidien, toute la somme de nos expériences participe en quelque sorte à la formation continue qu'on reçoit. Et puis forcément, en fonction de vers où on s'oriente, il va y avoir des outils, des choses, des apprentissages qui vont nous être plus utiles que d'autres. Je pense à des personnes qui ont des intérêts spécifiques dans le domaine de la comptabilité, qui forcément vont leur être utiles dans plein de cas de figure différents, alors que quand on a une passion, par exemple, sur les différentes élytres des insectes, ça peut être intéressant quand on fait de la recherche, par exemple, mais c'est vrai que dans son quotidien, ça ne va pas être forcément très utile. En tout cas, voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans les apprentissages. On apprend et on retient mieux ce qui nous passionne. Quand ça nous est utile dans notre quotidien, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça semble un petit peu moins nécessaire, mais ça reste quelque chose qui est intéressant à valoriser. Moi, personnellement, je suis ravie de croiser des personnes passionnées, peu importe le sujet. En fait, elles vont vraiment me permettre d'avoir accès à plein d'informations et à d'ouvrir de nouveaux questionnements qui sont une vraie richesse. Parfois, quand on me pose la question lors des inspections chaque année, les enfants qui sont instruits en famille ont une inspection à passer. Et donc, nous, ça fait déjà plus de 10 ans maintenant qu'on en passe chaque année et pour chaque enfant. Donc, ça commence à faire un paquet d'expériences à notre actif. Et régulièrement, revient la question de qui est en charge de l'éducation, de l'instruction de vos enfants. Et en réalité, oui, bien sûr, c'est mon nom sur le papier. Étant donné que nous passons beaucoup de temps ensemble, c'est moi, on va dire, qui va veiller à leur offrir un environnement qui soit riche, qui va veiller à ce qu'ils puissent avoir accès aux documents sur telle ou telle thématique qui les affectionne. Mais j'aime vraiment à le rappeler à chaque fois, chaque année, que je les livre aux personnes qui sont passionnées. Et réellement, je suis pleine de gratitude envers toutes ces personnes qui prennent le temps d'expliquer donc aux enfants, mais aux autres personnes, aux autres adultes autour d'eux, les tenants et les aboutissants parfois, que eux, leurs conclusions personnelles, que eux ont tirées de toutes les connaissances, de toute leur passion sur une thématique en particulier. Moi, je vois que il y a certains domaines, et heureusement, on n'est pas obligé de tout connaître pour faire l'école à la maison avec ses enfants. Moi, j'apprends clairement autant que eux, enfin, sûrement un peu moins rapidement. Mais en tout cas, je ne me place pas, moi, comme la personne sachante et qui doit délivrer des connaissances, délivrer un savoir aux enfants. Non, au contraire, on se place vraiment de manière, on va dire, horizontale, où on peut apprendre ensemble et quand on ne sait pas, et ben on cherche, mais c'est vraiment pas un souci de ne pas savoir à la maison. Justement, c'est l'occasion parfaite pour pouvoir en découvrir plus, en apprendre plus. Et donc, toutes ces personnes passionnées qui prennent le temps de partager un petit peu leur savoir, je trouve ça particulièrement précieux. Et tout ça, forcément, ça demande du temps. Et souvent, je pense que ça va être la denrée la plus rare au fur et à mesure que le monde technologique aussi prend de plus en plus de place dans nos vies. Ça va être ce fameux temps d'échange, ce fameux temps de qualité. Malheureusement, il n'y a pas tant de personnes qui ont eu la chance de cultiver la joie d'être passionnées par un sujet en particulier. Et s'il y a un monde où on trouve de nombreuses passionnées, c'est bien le monde de la périnatalité. Alors c'est récurrent d'y trouver des personnes qui sont seulement passionnées, mais aussi engagées, qui sont militantes, qui sont avant-gardistes et plein d'autres superlatifs élogieux. Peut-être que ce n'est pas pour rien, c'est aussi parce que toutes ces personnes qui arrivent là, soit parce que c'est vraiment l'élan qu'elles avaient premier, mais aussi bien souvent suite à une reconversion. Peut-être est-ce aussi parce que c'est un domaine assez peu lucratif, en tout cas pour un très faible pourcentage des personnes qui sont actives, mais que l'objectif principal, il va bien au-delà d'être juste un métier. L'objectif principal, c'est vraiment un bien-être pour tout le monde, c'est d'être au service d'eux et au service d'une cause qui est grande et de participer à un cercle qui soit vertueux, avec des valeurs communes fortes. Et puis, à force de vivre des cercles de parole, j'aime à voir combien nous avons de choses à nous apporter les unes aux autres. Sans distinction de reconnaissance sociale, sans avoir besoin de leader, sans avoir besoin de chef, sans avoir besoin de personnes sachantes qui viennent livrer un petit peu toutes leurs connaissances. Il n'y a pas les personnes qui apprennent d'un côté et celles qui savent de l'autre. Quand on est en cercle, on se retrouve vraiment sur un point d'égalité. Il y a vraiment les personnes qui livrent leur vérité, qui se livrent leur vérité. Et parfois, en fait, elles sont différentes. Mais justement, en fait, c'est créer ensemble un espace où ces vérités, elles se superposent et elles rayonnent. C'est ça, la magie, pour moi, de ces échanges-là. Ça permet d'être dans un système qui est non pyramidal, où vraiment la connaissance, elle circule, elle évolue, et puis tout le monde va pouvoir adapter un petit peu en fonction des nouvelles connaissances que les autres font émerger ou des nouvelles mises en lumière qu'on va pouvoir faire à travers les yeux des autres. Alors, suite à ça, j'ai une idée qui a germé il y a déjà quelques temps, qui était de créer un événement qui permette de vivre ça, mais alors sur un groupe plus étendu, sur une durée un petit peu plus longue. Enfin, pour celles qui me connaissent, c'est déjà un petit peu toujours comme ça que je fonctionne dans mes formations. Je laisse la porte ouverte à vos retours, à vos cheminements, à vos désaccords aussi, et je répète sans cesse, parfois c'est peut-être même un peu pénible, que vous devez ne pas me croire sur parole. Pour moi, l'humilité, c'est super important, et vraiment, tout comme la confiance qu'on me porte et le respect des personnes qui m'entourent. Toutefois, j'avais envie d'aller plus loin avec une proposition, un workshop qui soit collaboratif sur 4 jours au printemps. Donc cet événement-là, moi je le souhaite fondé sur le partage des connaissances et des ressources de l'ensemble du groupe. L'idée, elle est simple, elle est de permettre aux pros qui le souhaitent d'intervenir lors d'un atelier sur une thématique qu'elles affectionnent particulièrement parce qu'elles sont expertes, ou alors même sur un sujet parce qu'elles y sont sensibles et qu'elles souhaitent avancer le dialogue pour croiser les connaissances et les idées. Co-créer, ça me semblait vraiment être l'idée la plus juste et la plus alignée à mes valeurs. Je suis tellement convaincue qu'on a toutes et tous autant à s'apporter que je ne voyais pas organiser un événement en faisant venir des têtes d'affiche dans le domaine de la périnatalité. Et en proposant aux autres de suivre des enseignements. Non, là, j'avais vraiment envie que chaque personne puisse collaborer. Et donc, cet événement-là, il va être l'occasion pour les personnes qui le souhaitent de venir proposer un atelier, de venir proposer un temps d'échange et de partage. Donc, sur les 4 jours, évidemment, on va avoir plein de créneaux disponibles différents qui vont permettre d'explorer des thématiques très variées. Il va y avoir des thématiques qui sont tout à fait bateaux pour les doulas, sachant que je tiens à préciser que les doulas sont toutes les bienvenues, qu'elles soient en cours de formation, avec une école ou sans école, parce que l'auto-formation est de la formation, des doulas qui sont déjà installées, des doulas en cours d'installation, des doulas expérimentées. Chacune vraiment va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et justement, ça va être toute la richesse de ce moment qu'on va passer. Je l'appelle le Doula Workshop, mais il est également possible aux personnes qui ne se définissent pas comme doula de venir. C'est-à-dire que les personnes qui sont des accompagnantes à la parentalité, à la périnatalité, les personnes qui sont coach parental également. En tout cas, l'appel, si le mot doula est utilisé, c'est parce que c'est le mot qui est le plus reconnaissable, le plus répandu. Mais sentez-vous libre si vous n'avez pas cette casquette-là, mais que vous êtes intéressé de venir participer également. Je voulais un espace qui soit collaboratif, mais aussi un espace qui soit cocoon. Ça, c'était essentiel pour moi. Je sais combien les pros de la périnatalité, elles donnent au quotidien. Alors cet événement-là, il me tenait vraiment à cœur de les accueillir avec soin, de les honorer. Donc les participantes, elles pourront être logées sur place ou aussi si elles veulent un peu plus de calme, parce que là, c'est un logement qui peut accueillir jusqu'à 30 participantes. C'est aussi possible d'envisager d'être logées un peu plus loin dans le village avec des effectifs qui sont moins nombreux. Les repas, eux, seront préparés sur place avec des produits frais, locaux, bio et avec une chef qui viendra cuisiner spécialement pour nous. On n'aura plus qu'à se mettre les pieds sous la table, à se détendre, à échanger et avoir le plaisir de se retrouver ou de se rencontrer. J'ai pleinement confiance en la richesse d'un tel événement et j'ai hâte de découvrir les belles âmes qui vont répondre présentes à cet appel. Je choisis vraiment sciemment de ne pas mettre en avant une personne plutôt qu'une autre. Pour moi, nous sommes toutes aussi importantes les unes que les autres et nos expériences et nos chemins sont singuliers et c'est ça qui va révéler du magique. Les prix, eux, sont pensés pour être le plus abordable possible. Il va y avoir différentes modalités de paiement, notamment la possibilité de participer à un surplus en suspendu. Je ne sais pas si vous connaissez le système des places suspendues, c'est-à-dire que vous allez pouvoir payer un petit peu plus, ce qui va réduire le coût du nôtre doula qui en aurait besoin. En payant sa place, on marque son engagement envers cet objectif commun de faire rayonner nos pratiques et on choisit de se positionner en égal. Un tarif réduit sera disponible spécialement pour les pros qui sont dans le besoin. Le mieux, ça sera de me contacter par email, je vous donnerai les différentes modalités. Les personnes qui sont abonnées à la newsletter Maman Dalune auront déjà eu les informations au moment où ce podcast va sortir. En attendant, si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver les informations dans les notes du podcast avec le lien pour pouvoir nous rejoindre pour cet événement. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de nuit, de matinée en fonction de là où vous êtes aujourd'hui même. N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à venir me mettre un petit mot en commentaire. Et si vous avez envie de semer des étoiles, c'est avec grand plaisir que je le verrai apparaître sur le podcast et ça va vraiment contribuer à la visibilité. Bien à vous!